Parfait.
C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez Le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on vous emmène en balade dans les cimetières, dans le cimetière des réseaux sociaux.
Ouais, salut Thibaut.
Salut Adjane, tu vas bien ?
Bah ça va, super. Un peu glauque hein, comme introduction, mais en fait, plus drôle qu'il n'y paraît.
Hein. On aurait dû garder pour Halloween cet épisode, je pense.
C'était pas mal. Ouais, ce matin, on va tout simplement faire un petit coup d'œil dans le rétroviseur pour regarder avec vous un peu tous les réseaux sociaux qui n'ont pas réussi à passer le cap, hein, qui n'ont pas réussi à survivre aux mastodontes qui font aujourd'hui les plateformes sociales qu'on connaît.
Il y a un peu plus de 15 ans, Adjane, le soleil tombait pour de bon sur l'ancien monde, hein, le monde du web 1.0.
Un monde que tu as connu.
Oui, que j'ai connu. Et nous entrions dans une nouvelle ère, celle de la connectivité H24, des algorithmes, des amis virtuels et des photos de profil. Hein. Tout ça, ça n'existait pas avant. Et puis après, les réseaux sociaux sont arrivés. Et en 15 ans, il s'est passé un paquet de trucs. Hein. On en a vu défiler des plateformes sociales. J'en ai vu défiler quelques-unes. Et certaines ont résisté. Facebook, bien entendu, on va en reparler. Mais nombreux aussi sont les réseaux qui, après avoir connu une heure de gloire ou en tout cas quelques années de gloire, ont fini leur courte carrière aux oubliettes du web. Et donc ce matin, on va remonter effectivement le temps et on vous présente 6 réseaux sociaux qui se sont cassés la gueule. On va peut-être commencer avec... Ben oui, il n'y a pas d'autre mot. On va commencer avec Friendster.
Le premier, hein. Le first one, l'ancêtre du réseau social, bien sûr, il a été créé en Californie, à Mountain View, un peu comme la suite des réseaux sociaux. C'est un peu voilà, c'était écrit quoi, ça devait commencer là-bas. Il a été créé en mars 2002, donc ça commence à dater sérieusement. Et ce site était basé tout simplement sur des cercles au réseau d'amis, donc quelque chose qu'on connaît encore aujourd'hui. Et il a été fait en fait vraiment avec une réflexion de la démonstration du phénomène du petit monde ou du paradoxe de Milgram. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est.
Oui.
C'est assez simple, hein. Je vais redire en deux mots ce que c'est. C'est une étude de 1967 d'un certain Milgram qui démontre que chaque Américain est relié au maximum par 6 personnes. Donc, vous êtes là actuellement aux États-Unis, vous êtes à 6 personnes de Barack Obama et aussi de Donald Trump, par exemple.
Ouais, le fameux « on est à 6 poignées de main de quelqu'un ».
Voilà. Et du coup, ils ont voulu recréer ça sur un site en disant « on va faire des cercles d'amis et puis on va prouver qu'en fait, vous êtes à 6 personnes de n'importe qui dans le monde, en fait, grâce à ce réseau social-là ».
Ouais, à l'époque, c'est une révolution. Est-ce qu'il faut remettre dans le contexte, hein, à l'époque, Yahoo, c'est le moteur de recherche numéro 1. T'es en 2002 hein, et on installe Internet, tu sais, avec le petit CD AOL que tu reçois,
ouais, très bien.
Etc. Donc, on est quand même très, très loin. Voilà, pour les plus jeunes qui nous écoutent, on est quand même très, très loin du web qu'on connaît aujourd'hui. Et à l'époque, tu as raison, il y a un garçon qui s'appelle Jonathan Abrams qui crée Friendster et c'est le premier vrai réseau social.
Hein. Eh oui, ils sont numéro 1 jusqu'en avril 2004 hein, quand même. Hein. Donc, ils restent à un moment donné seuls dans ce créneau. Là, pendant 2 ans, c'est les number one jusqu'à ce qu'ils soient rattrapés par MySpace, mais on en parlera un peu plus tard.
Ouais, donc là, Friendster passe la barre des 3 millions d'utilisateurs au cours de ses 3 premiers mois, donc gros succès. Hein. Mm. Et en 2006, Jonathan Abrams il refuse une offre de rachat de Google pour 30 millions de dollars.
Aïe.
C'était une mauvaise idée.
Ouais.
C'était une mauvaise idée parce qu'effectivement, quelques mois plus tard, il y a MySpace qui explose. Friendster est mort et enterré. On n'en parle plus de Friendster. Voilà. Et ensuite, MySpace, 2003. Qu'est-ce qu'on peut dire de MySpace ? Tu te souviens de MySpace, le bon vieux Tom ?
Ah oui, je me souviens très bien.
Avec son t-shirt blanc.
Tout le monde était ami avec lui.
Ah ouais, le meilleur copain. MySpace est fondé effectivement par Tom Anderson et Chris DeWolf. C'est en août 2003.
Exactement. MySpace est né en 2003 aux États-Unis aussi. Et puis très vite, hein, MySpace, ça devient un gros succès. Pour les plus jeunes qui ne connaîtraient pas MySpace, hein, parce que ça peut arriver, qui nous écoutent, c'est un réseau social qui était en fait vraiment basé sur la musique. Et de nombreux groupes, artistes, se sont à l'époque créé une page MySpace pour diffuser leur musique sur Internet. Donc vous pouviez charger vos morceaux, vous pouviez vous présenter votre groupe. Et ça permettait d'avoir un réseau de fans qui vous suivaient sur MySpace ou d'amis, hein, d'autres personnes qui avaient aussi des comptes MySpace.
Ouais, à l'époque, c'était un phénomène. C'était vraiment un lieu de découverte musicale. Il y a plein de groupes qui ont émergé par MySpace. Je ne sais pas si toi, tu t'en souviens de quelques-uns.
J'en ai pas en tête là comme ça.
Moi, je me souviens qu'on parlait de groupes MySpace. Je crois que tu as des mecs comme les Bébés Brunes ou des trucs comme ça. Ils ont été découverts vraiment via MySpace.
Mais il y en a eu, oui. Il y en a eu de nombreux et en fait, pour se rendre compte à quel point MySpace ça a été un succès, en octobre 2005, MySpace, c'est le quatrième site le plus consulté derrière Yahoo, AOL et MSN et devant eBay ou Facebook qui est encore embryonnaire.
Ouais, voilà. Et il est racheté par le groupe de Rupert Murdoch, News Corp, hein, en juillet 2005 pour $580 millions.
Wow.
Ce qui est quand même une somme énorme. Donc Rupert Murdoch, le roi des news, hein, le roi de l'info, s'achète cette plateforme sociale où, en gros, ça clignote dans tous les sens. Ce qui avait de génial sur MySpace, c'est que vraiment, c'est un espace de liberté. Tu pouvais hacker le code, ce que tu peux pas faire. En fait, c'était imaginer une sorte de Facebook. Au départ, c'est aussi austère que Facebook, sauf que tu pouvais hacker le code, rentrer ta propre ligne de code, mettre des gifs animés dedans, faire clignoter, transformer tout en rose et tout. Voilà. Mais sauf que, évidemment, en 2005, il y a cette vente et ce rachat par Rupert Murdoch. Et là, on peut dire que quand même, le bon vieux Tom, il a eu un peu du pif, hein, parce que Facebook arrivait très, très vite derrière. Il a pris ses $580 millions. Et en 2008, Facebook éclipse le nombre d'utilisateurs mensuels de MySpace.
À ce moment-là, en 2008, il y a 230 millions de comptes ouverts, hein, sur le site MySpace, qui était quand même pas rien. Et puis, en 2010, hein, je ne sais pas si tu as connu ce groupe qui s'appelait Les Rois de la Suède, qui avait écrit un morceau déjà à l'époque, MySpace, tu vas mourir.
Et ouais,
c'est le groupe de Monsieur Poulpe.
Ouais, c'est ça, d'accord, c'est drôle. Et qu'est-ce qui a tué du coup MySpace? Et on peut dire sans doute l'arrivée évidemment Facebook, interface standardisée sur Facebook,
bien
ce
sûr.
Qui plaisait vachement plus aux nerds, hein, parce que c'était un peu geek MySpace, mais c'était surtout pour les petits rigolos, ceux qui voulaient parler vraiment entre eux de bouquins, de trucs.
Oui.
C'était pas sur MySpace. On peut parler autre chose de musique sur Facebook. Donc ça séduit. Et puis surtout sur Facebook, t'as propre identité, ce qui n'était pas du tout le cas de MySpace, c'est vraiment le règne du pseudo. Donc Facebook arrive en face et puis évidemment tue MySpace, quoi.
Alors ce qui est assez fou quand même pour conclure avec MySpace, c'est que c'est vraiment un réseau qui a jamais eu d'équivalent en fait par la suite. Peut-être un peu SoundCloud qui est arrivé ensuite et qui a propulsé par exemple le Cloud Rap à l'époque de son apogée. Mais il n'y a jamais eu de plateforme comme ça, musicale et réseau social, qui a vraiment explosé depuis MySpace.
Ouais, ça pourrait être Spotify, ça pourrait être SoundCloud.
C'est pas vraiment un réseau social.
Il y avait vraiment un positionnement à part. Ce qu'on peut dire, hein, c'est que en 2011, MySpace licencie la moitié du personnel. Merci les gars, au revoir et bonne chance. Et puis qu'aujourd'hui, MySpace n'est pas mort. Hein. Il y a encore 393 employés. Si tu consultes le compte LinkedIn de MySpace, tu as encore 393 employés. Il y en avait 1300 en 2009. Donc on voit que c'est vraiment la fin du fin.
Bon Thibaut, on avait parlé de Google, hein, qui s'est planté dans son rachat auprès de Friendster, qui a raté. Je crois que Google après a quand même essayé de lancer son propre réseau social.
Et ouais, Orkut. Là on est en 2004 et Google essaye depuis au moins 2 ans. Ils ont essayé avec Friendster, on en a parlé avant, de les racheter, et ils ne peuvent pas acheter un seul réseau social. Hein, ils scrutent tout ce qui sort et du coup ils se disent on va le créer le nôtre, et ils créent Orkut. Hein, juste après MySpace, un tout petit peu avant Facebook.
Je pense qu'on dit Orkut parce que c'est plutôt un Turc qui a monté la plateforme. C'était un étudiant de Stanford, hein, qui est Turc, qui s'appelle Orkut Buyukokten,
ouais,
qui a créé le site et qui est devenu employé Google et qui s'est fait après financer tout ça par la machine Google.
Voilà, et entre 2004 et 2014, Orkut explose. Hein, il n'a jamais marché aux États-Unis, il n'a jamais marché en Europe.
Alors, tout ça, je me suis plongé un peu dans les chiffres. Effectivement, le réseau qui est créé en 2004, il compte 50 millions d'utilisateurs 2 ans plus tard, donc c'est pas énorme. Et dans ces 50 millions, il y en a la moitié qui vient du Brésil, mais si on va encore plus loin, donc on va revenir là-dessus, mais si on va encore plus loin, 90% des utilisateurs du réseau se situent entre le Brésil, l'Inde, les États-Unis et l'Iran.
Ouais, ça, c'est
et rien
même,
d'autre après.
C'est quand même incroyable, c'est un réseau social qui en fait a pris, mais que dans certains pays. Très étrangement, on ne sait pas pourquoi.
Principalement au Brésil, quoi, c'est ouf. Brésil, 26 millions d'utilisateurs au Brésil, ce qui est incroyable.
Ah ouais, à un moment donné, j'ai un chiffre comme ça, il y avait 27 millions de membres en Inde contre seulement 4,2 millions sur Facebook en Inde, qui sont loin devant. Et Orkut, hein, qu'est-ce qu'on y trouvait sur Orkut? C'est un peu un Facebook, hein, concrètement, c'est à peu près la même chose.
Ouais, on retrouve même les espèces de premières réactions. J'ai trouvé ça avec un visage souriant, un glaçon ou un cœur. Donc les premiers émoticônes, un peu, j'ai envie de dire, de l'époque. Et Orkut arrivait pour pourtant en plus dans un bon timing, hein, parce que juste après la création de MySpace et avant la création de Facebook, donc on pouvait se dire genre, ah, est-ce que Orkut, ils ont une fenêtre de tir en tout cas, et puis au final, non, ça n'a jamais pris internationalement.
Ouais, quoi. Ça n'a jamais tellement pris. Facebook, bah, évidemment, l'a emporté. Hein. Pourquoi ? Bah, peut-être dans les choses qui sont évoquées, on parle de plus de jeux sur Facebook qui avaient vite saisi cette occasion-là, l'entertainment sur sa plateforme, les notifications, le look plus professionnel aussi de Facebook, plus léché, et puis surtout l'internationalisation. Hein, c'est ce que Facebook a très bien réussi, c'est qu'en assez peu de temps, ils ont réussi à devenir incontournables. Et ce qui se passe, c'est quand tu es en Inde ou quand tu es au Brésil, bah, et que tu as des potes aux États-Unis ou en Europe, et bah, à un moment donné, bah, tu bascules sur la plateforme ou là où ils sont parce que tu as envie de parler avec eux. Donc en 2014.
C'était la force de Facebook, le niveau mondial de la plateforme, le fait de se développer de partout.
Et voilà, donc en 2014, Google abandonne Orkut qui avait encore une communauté, 300 millions de membres à l'époque quand même. Hein, et voilà, RIP Orkut et puis Facebook qui gagne encore.
J'aimerais parler ouais, maintenant d'une application en fait, d'un réseau social qui est arrivé d'abord sur les téléphones. C'est un peu la première plateforme sociale vraiment destinée aux téléphones, ça s'appelle Path. Path.
Ouais, comme le chemin en anglais. Hein.
Voilà, P-A-T-H, excusez-moi pour mon anglais catastrophique, qui a été créé en 2010 et comme je disais, qui était spécifiquement fait pour une utilisation en mobile.
Ouais, c'est la première application
bah
sociale,
ouais, Path. Je trouve qu'il y a un côté avant-gardiste ouf. Path, en plus, joue la carte de l'intimité et de la confiance dans un réseau en fait, social fermé. C'est-à-dire que vous rentrez vos amis et ça s'arrête là. Il n'y a pas de visibilité publique. Donc c'est exactement ce qui fonctionne aujourd'hui. Hein. De la confiance et après tous ces scandales Facebook. Et puis, Path s'était déjà développé et avait déjà des fonctions qu'on retrouve aujourd'hui chez toutes les grosses plateformes sociales que sont Facebook ou Instagram. Je vais juste vous les citer, vous allez voir, c'est assez fou. On pouvait à l'époque publier des photos avec des filtres, hello Instagram, se géolocaliser, citer des amis avec qui on se trouve ou alors de la musique qu'on est en train d'écouter, annoncer par exemple quand on va se coucher ou commenter les publications de ses amis justement pour faire de l'interaction et converser.
Ouais, Path, c'était clairement une
incroyable
application avant-gardiste parce qu'il faut rappeler qu'elle a été créée en 2010 et à l'époque Facebook vient à peine de lancer son bouton like, donc autant te dire que
en avance de ouf.
Path est vachement en avance avec effectivement comme tu l'as dit une spécificité, c'est que c'est une application sociale et eux ils ont toujours revendiqué qu'ils n'étaient pas un réseau social, qu'ils étaient un réseau personnel et ça c'est vachement intéressant parce que qui est-ce qui a monté cette application ? Eh bien, il y a David Morin, c'est un ancien de Facebook, et puis il y a Dustin Miro qui est Napster en fait. C'est le mec qui a tenu Napster, donc autant dire qu'ils étaient quand même un peu dans le game de la techno.
Connaissaient un peu.
Et eux, ils sont basés sur les conclusions d'un anthropologue qui s'appelle Robin Dunbar. Hein, je pense que tu en as parlé tout à l'heure. Tu parlais de Dunbar tout à l'heure ou non, c'était un autre.
Ouais.
Pardon. Et donc Robin Dunbar, il dit lui qu'on a en général entre 40 et 60 amis proches. Et eux, ils décident, et ça c'est la grosse spécificité de Path, c'est de limiter à 50 amis par membre. En gros, tu t'inscrivais sur l'application et tu pouvais avoir que 50 personnes comme amis proches. Et c'est rigolo parce qu'effectivement, on a le sentiment que c'est un peu ce qui est en train de se reproduire aujourd'hui dans Facebook, dans Instagram. Il y a un peu de resserrement sur l'aspect communautaire.
Avec, par exemple, les amis proches, hein, qu'on voit la fonction amis proches sur Instagram, qui est très en vogue. Et à son apogée, hein, Path en 2012 compte 3 millions d'utilisateurs. Donc, c'est resté quand même assez restreint.
Tiens, mais d'ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est qu'aussi, au bout de 3 mois, eh bien, les fondateurs refusent une offre de 200 millions de dollars offerte par Google, hein, qui comme
toujours
là tout à l'heure, voulait absolument racheter tout. Voilà, donc c'était peut-être une erreur. Hein, ils auraient peut-être dû la prendre, la thune, parce qu'en 2014, Path ferme ses portes. Voilà, pourquoi ils ont eu un gros scandale. Il faut dire qu'en 2012, ils ont eu un scandale, Path, parce qu'ils ont été obligés de reconnaître qu'ils utilisaient les contacts de l'annuaire téléphonique de la personne qui utilisait l'appli. À l'époque, c'était tabou, c'est-à-dire tu t'inscrivais sur une appli, l'appli n'était pas censé aller lire ton annuaire de contact.
Ce qu'il y a dans ton téléphone.
Et
quoi,
eux, ils lisaient ce qu'il y avait dans le téléphone pour faire des relances, du marketing vis-à-vis de ces gens en disant « Eh, venez vous inscrire sur Path ». Donc évidemment, eh ben, ils ont pris un énorme tabou, un énorme
trop
scandale et se sont cassés la gueule en 2014. Allez, parlons de Vine.
Ouais, enfin un réseau social qui n'a pas été racheté par Google ou voulu être racheté par Google puisqu'il appartenait quasiment depuis le départ à Twitter. Effectivement, Vine, il a été conçu en 2012 et a été racheté la même année directement par Twitter pour être lancé en janvier janvier 2013.
Il faut même préciser qu'il a été racheté avant son lancement officiel. Ouais,
c'est
ouf.
Veux, c'est ça.
Le fondateur Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, il tombe sur Vine et il kiffe et il dit ce truc-là, ça peut devenir encore plus énorme que Twitter, donc on va le racheter avant même que ça sorte. Donc effectivement, Twitter détient Vine, hein, qui a un énorme succès, qui est une plateforme de micro-blogging vidéo en fait.
Ouais, c'est une application qui permet de faire des micro-vidéos de 6 secondes montées ultra facilement, puisqu'en fait, dès que vous appuyez sur le bouton enregistrer, ça enregistre et vous pouvez vous arrêter et reprendre, et ça met les unes derrière les autres les images que vous prenez. Donc, ça fait aussi des vidéos de 6 secondes qui tournent en boucle. Donc, ça ressemble un petit peu à des GIFs, hein, comme on peut connaître aujourd'hui. Et puis, le principe, c'est qu'il y a moins d'images par seconde que dans une vidéo classique. Donc, les vidéos sont plus légères et ça améliore la fluidité de l'application et la facilité pour charger ces vidéos-là dans l'appli. On se rend compte quand même que c'est un petit peu, pour moi, c'est un petit peu l'ancêtre de la story aujourd'hui d'Instagram ou de Facebook.
À l'époque, c'est un phénomène de société. Hein. Vine, ça a lancé des comédiens, ça a lancé des créateurs de contenu clairement. Et puis, surtout, ça a lancé ce format, comme tu dis, qui aujourd'hui, alors c'était un format carré.
À l'époque, c'était carré. Ouais,
mais clairement, on est ce qu'on retrouve dans TikTok, etc. C'est très, très proche de ce qu'il y avait sur Vine.
Exactement, dans TikTok. Et puis, le fait de filmer comme ça des vidéos qui sont ultra simples, qui sont pas léchés, quoi. Il y a pas de
fait maison, quoi.
Voilà, c'est du fait maison,
ça,
exactement. Et puis tu dis, c'est un phénomène de société à tel point qu'en 2014, pendant la Coupe du Monde au Brésil, il y a tellement de personnes qui utilisent Vine en direct des stades ou devant leur télé pour montrer des buts ou des choses comme ça, que la chaîne qui retransmet la Coupe du Monde en France, beIN Sport, s'inquiète publiquement et demande comment on peut faire pour restreindre toutes ces vidéos.
Ouais, donc tout avait l'air de bien être parti pour Vine, sauf qu'en 2016, Vine ferme ses portes littéralement. Pourquoi ? Parce que Twitter se porte financièrement plutôt très mal. C'est la maison mère et ils ont décidé d'être rentables. Donc, du coup, ils coupent là où ça ne fait pas de revenus et notamment sur Vine. Et puis, ils payent aussi leur incapacité à maintenir leurs utilisateurs actifs en face. Il y a YouTube qui a pris une énorme place et puis il y a Facebook, bien sûr, qui arrive très fort sur la vidéo, Instagram, Snapchat. Donc, en gros, tous leurs talents sont en train de se barrer sur d'autres plateformes. Et résultat des courses, ils ferment en 2016. Il y a des grosses rumeurs sur un Vine 2.0.
Mais il y a encore beau. Il y a des sociétés apparemment asiatiques qui chercheraient depuis la fermeture à racheter les droits de Vine à Twitter pour pouvoir relancer cette application. Si vous êtes trop jeune pour vraiment connaître, même si là quand même vous êtes vraiment très jeune dans ce cas-là, mais vous pouvez aller vous faire des gros best-of Vine sur YouTube. Il y en a des très 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 drôles.
Ça reste toujours très bien. Allez, le dernier, on va finir en beauté ou pas. C'est Google Plus. Google
Plus. Je connais pas.
Voilà, Google, à force de monter des trucs, de vouloir racheter des réseaux sociaux, etc. Ils se sont dit, allez, on s'en remet une couche et on crée Google Plus. Google Plus qui a été fondé, créé en 2011. Franchement, pour être honnête, on n'a jamais bien compris cette histoire de Google Plus. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus ?
On peut dire qu'il y avait 110 millions d'utilisateurs en 2015, mais qu'en fait, dès qu'on avait un compte Gmail, on avait un compte Google Plus, donc il y avait très peu d'utilisateurs actifs. Et une étude dès 2012, hein, un an après que c'était monté, montrait qu'un utilisateur en moyenne passait 3 minutes par mois sur Google+. C'est extrêmement faible comparé par exemple aux 6 heures de Facebook. Donc en fait, ça n'a jamais fonctionné.
Et puis surtout, c'était un réseau social vraiment fait par des ingénieurs. On ne comprenait rien. Il y avait ces logiques de bulles, de sujets, de cercles d'amis et tout. C'était extrêmement complexe à utiliser Google+.
Simplifiez les gars.
Concrètement, ça a fait un flop. En 2019, ils ont fermé. C'est peut-être le dernier gros réseau social, si on peut encore appeler ça un réseau social, qui est fermé dernièrement. Voilà, vous l'avez compris, hein, les amis, hein, Facebook, au milieu de tout ça, on a tué plus d'un. Mais peut-être, est-ce qu'on peut imaginer, si on doit juste faire une projection rapide, est-ce qu'on peut imaginer demain que certains acteurs importants aujourd'hui du social se cassent la gueule ? Moi, je pense à des phénomènes comme TikTok. Il y a eu d'autres phénomènes du même type, comme Vine, qui ont disparu. Qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Ça va dépendre de l'attitude de Facebook ou d'Instagram à se mettre à jour par rapport à ces applications-là, parce qu'à chaque fois, ce qui s'est passé, c'est surtout que ces géants des réseaux sociaux se sont adaptés en sortant rapidement des fonctionnalités similaires à ces nouvelles plateformes. Et quand vous avez tous vos amis qui sont sur une certaine plateforme sociale et que vous pouvez utiliser la même fonction, bah vous restez sur la même plateforme sociale. Vous n'allez pas tous migrer sur une nouvelle.
Ouais, c'est un peu la leçon. Hein. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire, les amis. Il y en a d'autres, hein, si vous avez envie d'en parler avec nous.
Si jamais vous avez des idées hein, de choses qu'on a laissées un peu de côté, on a fait un espèce de best-of, mais il ne faut pas hésiter à venir nous en parler. On sait qu'il y a certains d'entre vous qui nous avaient déjà demandé il y a longtemps sur Twitter de traiter ce sujet-là. On l'a enfin fait. C'était quand même beaucoup de boulot, donc c'est pour ça qu'on a mis un peu de temps. On espère que l'épisode va être audible pour tout le monde parce qu'on a mis beaucoup d'informations en 20 minutes. Mais n'hésitez pas à venir en discuter avec nous plus longuement sur les réseaux sociaux, @supernatif, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur MySpace, sur Google Plus.
À peu près partout. Et puis, vous écoutez ce podcast dans votre application de podcast préférée. N'hésitez pas à le partager avec un pote ou une pote. Peut-être que ça leur fera plaisir que vous leur fassiez découvrir le Super Daily. Et puis, mettez-nous une petite note ou un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous ferait très, très plaisir.
Allez, ciao, ciao.
Salut les amis.